www.radioscoop.fr.
Chant contre chant revient à Angers. 4 jours pour vibrer avec le court-métrage, le vidéoclip et la musique de film. Projections, rencontres, expos, concerts, l'image et le son, même pulsation. Du 13 au 16 novembre, à la Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers. Infos et billetterie sur chantcontrechant.com.
Le 5 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire organise le premier salon du bien vieillir en Anjou.
De 9h à 17h, le centre de congrès d'Angers accueillera exposants, conférences, animations et ateliers autour des questions liées au troisième âge.
Le docteur Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo, sera également présent pour une conférence sur le thème du mieux manger pour bien vieillir.
Le premier salon du bien vieillir en Anjou pour connaître ses droits, services et solutions adaptées pour les plus de 60 ans.
Le mercredi 5 novembre 2025, entrée gratuite et restauration sur place. Plus d'informations sur le site internet du département de Maine-et-Loire.
Elle était une fois une femme qui voulait chanter. Sa voix avait la douceur d'une brise d'été et la clarté d'une nuit étoilée. Mais cette femme était bâillonnée, empêchée de chanter par une société qui ne voulait pas l'écouter. Et alors qu'elle allait se briser, désespérée d'être silenciée, elle rencontra une troupe d'artistes qui l'encouragea à se libérer de ses chaînes et à chanter à pleine voix. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les voix d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines, Anna et Emeline. Bonjour à vous deux, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va.
Ça va, super, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle heure de papotage. Et en plus de ça, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu avec nous, Anna.
Ouais, grave, je suis trop contente de revenir ici parce que, vas-y, vous m'aviez trop manqué. Ah. Et puis je voulais tellement reparler à la radio, c'est un format qui me manquait énormément. Donc je suis trop honorée aujourd'hui d'être là.
Eh bien, c'est le grand retour et on est trop contente de t'avoir avec nous. Nous sommes aussi avec Marie de Face Maine-et-Loire. Bonjour Marie, comment ça va ?
Super, merci. Et toi ?
Ça va super, je suis trop contente de vous avoir avec moi pour cette nouvelle émission. Au sommaire de cette émission, on vous fait découvrir une artiste islandaise qui s'est essayée autant à la musique qu'au cinéma. Vous connaissez Mato Aka ? Non ? Bien pourtant, je suis sûre que si. Restez avec nous pour découvrir la véritable histoire de cette femme. On vous présente aussi le Priori de l'Oranger de Samantha Shannon qui vous plongera dans un univers fantastique rempli de dragons. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de vous sentir coupable parfois quand vous voyez des militantes et des activistes s'engager dans plein de projets, soutenir plein de causes, par plein de moyens différents ? Est-ce que ça vous donne, vous aussi, la sensation de ne pas faire assez ? On parle aujourd'hui de la pureté militante et comment se sentir légitime dans son engagement, alors restez avec nous. Dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles, ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, nous recevons une association qui porte un projet de fou, celui de créer le premier musée des féminismes de France. C'est la Fémuse et elle nous est représentée aujourd'hui par Lucille. Bonjour Lucille, comment ça va ?
Bonjour Astrid, ça va très bien, merci et merci pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir. C'est ton deuxième passage sur notre antenne parce que tu avais eu l'occasion de discuter avec nos collègues lors du Campus Day en septembre dernier. Ça s'était bien passé ?
Tout à fait, très bien passé. J'étais avec Christine Barr, notre
co-présidente. Ah, trop cool !
On avait pu présenter l'association aux étudiants aussi, donc c'était une très belle occasion.
Trop chouette et du coup pas trop stressée pour aujourd'hui ?
Non.
Non, ça va ? Trop bien. Nous découvrirons la Fémuse et ses projets et ses actions dans un quart d'heure environ, alors restez avec nous. Vous êtes sur Radio G, 101.5 FM, où on vous accompagne pendant une heure pour lutter contre le patriarcat. Une heure dédiée aux femmes pour enfin les mettre dans la lumière qu'elles méritent. Vous êtes dans Elle était une fois. All day, every day, therapist, mother, commence avant tout par une petite discussion. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, Kim Kardashian a sorti un nouveau produit dans sa gamme de prêt-à-porter, un string imitation poil pubien. Oui, oui, vous avez bien entendu, après des années, que dis-je, des siècles d'injonctions à l'épilation, Kim Kardashian décide que les poils pubiens sont à nouveau tendance, mais pas n'importe comment. En effet, pourquoi les porter naturellement alors que nous avons désormais le choix entre 12 coloris et plusieurs textures de poils différentes ? Bon, vous l'avez compris, je trouve ce nouveau coup marketing d'une absurdité sans nom, mais ce qui me dépite le plus, c'est que la marque est en rupture de stock quasiment depuis le lancement. Et sur le plateau, alors, on en dit quoi ? Est-ce que vous aviez vu passer l'info et qu'est-ce que vous pensez surtout de ces nouveaux strings imitation poils pubiens ? Anna ?
Bah, j'avoue, moi, j'avais grave pas entendu parler de ça.
Ah ouais ?
Ouais, non, grave pas.
C'est fou !
Mais du coup, ça m'étonne. Mais en soi, je pense que c'est... côté marketing, c'est plus en mode... on va mettre en valeur les poils pubiens, on va en faire un string et comme ça les gens vont se dire ah c'est bien, c'est woke, c'est féministe, genre c'est trop rien. Mais c'est ridicule en soi, comme tu dis, parce que finalement on garde quand même cet aspect, il faut se raser, mais par derrière on va faire des coups de pume, des coups de com pour vendre. Enfin, c'est tellement marketing capitaliste cette idée. Je suis désolée, mais genre, c'est ridicule parce que c'est tellement controversé avec l'idée de la femme doit être épilée, rasée de tout partout. Mais par derrière, acheter nos strings avec des poils pubiens.
Voilà, clairement.
C'est ridicule.
Et toi, Emeline, est-ce que t'avais vu passer l'info ?
Alors oui, j'ai vu passer l'info plusieurs fois.
Ok.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis mais quelle idée, parce que déjà ça paraît très confortable, honnêtement.
Déjà, ouais.
Et oui, c'est vrai, je trouve ça. Enfin, comme tu dis, assez capitaliste comme idée de se dire, ouais, on essaie de faire vendre en laissant passer une idée du féminisme alors qu'au final, c'est juste pour avoir des sous en plus.
Ouais, on est d'accord. Lucille, est-ce que t'avais vu l'info ? Qu'est-ce que t'en penses ?
J'avais vu passer l'info, en effet. Mais bon, au-delà de l'aspect, en effet, marketing, ce qui est bien, c'est que la question des poils sur le corps des femmes est quand même mise sur les débats publics. Et puis après, voilà, on est là, nous aussi, pour dire ce qu'on en pense dans une perspective féministe. Donc c'est bien, en soi, que le sujet soit quand même mis sur la table, même si, bon, voilà.
Ouais.
Il y a de quoi en parler dans une perspective un peu plus féministe que ne le fait Kim Kardashian, c'est sûr.
On est d'accord. Marie, une petite réaction, t'avais vu l'info ou pas du tout ?
J'avais pas du tout vu l'info passer. Je trouve ça et drôle et questionnant.
<Ouais. rire>
Questionnant sur le fait que je pense que des célébrités comme Kim Kardashian auraient toute la place et toute l'audience nécessaire pour porter des vrais messages avec une vraie puissance sur son audience. Je suis pas persuadée que ce soit de cette manière-là qu'il faille le faire. Je suis pas forcément convaincue du format, en tout cas. Assez drôle de se dire que demain Kim Kardashian elle décide de vendre de l'air en sachet, je pense que ça se vend.
Oui, je pense aussi.
Donc c'est un peu flippant. Voilà, ouais. Dans cette optique.
On est globalement toutes d'accord. Merci beaucoup pour cet échange. C'est toujours trop trop intéressant de pouvoir discuter avec vous. On continue dès à présent avec les nouvelles pépites de la semaine. Découvrons ce que nous a déniché Anna.
Au programme du Point Culture aujourd'hui, on parle du projet expérimental d'une artiste islandaise pour le moins atypique et des œuvres d'une peintre sculptrice japonaise au point. Vous comprendrez le jeu de mots plus tard, promis. Björg, de son vrai nom complet Björg Gudmundsdottir, je crois que je l'ai bien prononcé, est une musicienne, chanteuse, autrice, compositrice, interprète, productrice et actrice. Et en plus de ça, elle est aussi une de mes plus grandes inspirations quotidiennes. Cette talentueuse femme est née en 1965. Et je vous avoue qu'en faisant mes recherches, je m'attendais à apprendre qu'elle avait seulement dans la quarantaine. En vrai, ça montre qu'elle garde en elle une pêche et une jeunesse éternelle. Et je pense sincèrement que sa créativité et la façon dont elle a exprimé tout au long de sa vie y ont joué un très grand rôle depuis son enfance. Dès petite, Björg a grandi dans un environnement hippie et a appris très jeune le piano et la flûte. C'est pour dire, à seulement 11 ans, elle sortait son premier album où on y retrouve des reprises de musique islandaise, des Beatles ou encore de Stevie Wonder, qui sera nommé par la suite disque de platine. Elle et nous n'avons pas eu la même enfance, ça c'est sûr. Par la suite, Elle rejoint plusieurs groupes punk, dont le plus populaire, The Sugar Cubes. Mais finalement, elle décide de continuer sa carrière solo en sortant son premier vrai album Debut, un mélange de pop, d'house et de jazz. Mais ce que j'adore chez cette femme, c'est le fait qu'elle ait aussi bien joué dans plusieurs films, dont un, Dancer in the Dark, pour lequel elle a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 2000. Et c'est vrai que sa performance en vaut le détour. Finalement, en quoi n'est-elle pas douée ? J'y reviens à son premier album qui, j'avoue, m'a été découvert par un de ses sons les plus connus, Venus as a Boy. Dès le premier morceau de l'album, on est transporté dans un univers totalement différent, avec des instruments acoustiques, électriques et des percussions typiques du style hybride de Björk. Si vous écoutez son album par la suite, c'est que déjà j'ai bien vendu la chanteuse, mais vous pouvez surtout remarquer une certaine homogénéité entre l'ensemble de ses sons, alors pourtant que l'artiste met en lien énormément d'instruments, tous plus ou moins différents phonétiquement parlant. En plus de ça, chaque morceau est unique et jamais vous ne trouverez dans un morceau ce que vous trouverez dans un autre. Et ça, c'est signé Björk. Vraiment, mais qu'est-ce que j'aime cette femme ! On retrouve chez elle, chez sa musique, quelque chose de trouvable nulle part ailleurs. Avec sa voix explosive, mélodieuse, intrigante, Björk nous emmène dans une expérience musicale toute nouvelle. Pour moi, et d'ailleurs pour beaucoup d'autres, elle était bien trop en avance pour son temps et elle l'est encore aujourd'hui. La chanteuse réinvente la musique et c'est une certitude. Du Björk, c'est de la musique qui peut s'écouter en fond, mais c'est aussi de la musique qui se décrypte, qui se savoure, qui se traduit par un sentiment mélangé, profond et tout aussi expérimental que ses sons. On voyage autour du globe pour atterrir cette fois-ci en Asie, et plus précisément au Japon, où vit l'artiste avant-gardiste, décidément, Yayoi Kusama. Si je parlais dans mon introduction d'œuvre au point, c'est parce que chez Kusama réside une passion folle, celle des points, et plus précisément celle des poids. Enfant, elle eut une hallucination folle où elle fut envahie du motif rond, ce qui nourrira le début de son concept du self-obliteration, en français auto-anéantissement, concept propre à l'artiste qu'elle définit comme une recherche à oublier son corps physique et son identité, se fondant avec la nature et l'environnement, permettant d'explorer les limites de la perception et de l'identité. Dans ses œuvres, elle utilise des motifs répétitifs pour créer un sentiment d'anéantissement et invite les spectateurs à ressentir un état de transe, à réfléchir sur la nature de l'existence et de l'identité. Avant-gardiste, je vous ai dit. Tout ce que j'adore chez Yayoi Kusama, c'est sa capacité à transformer un simple motif pourtant tout mignon et minimaliste en une source presque d'angoisse avec une réflexion poussée à partir de celle-ci. Jaune, rouge, rose, elle transforme des pièces entières dédiées au poids, créant une jolie hallucination visuelle. En fait, Kusama invite les autres à rejoindre son expérience, en partageant son vécu à travers une création qu'elle aura elle-même produite. Et c'est ça que je trouve génial. Elle révèle aussi faire un art psychosomatique, en gros qui traduit des troubles psychiques dus à des facteurs psychologiques. Pour éviter de m'étaler sur des faits trop techniques, je vous invite à vous renseigner sur ses œuvres afin de vous plonger vous aussi dans l'univers psychodélirant de Yayoi Kusama. Oui, j'ai bien dit Yayoi, oui. Ayant consacré sa vie au poids. Le point culture, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à nouveau dans 2 semaines sur radio-g.fr 101.5 FM. D'ici là, je vous laisse discuter de tout ça ensemble.
Merci beaucoup Anna pour cette chronique qui nous permet de découvrir de nouvelles œuvres culturelles toujours super intéressantes. Et donc, est-ce que sur le plateau, vous connaissiez l'artiste islandaise Björk ? Sinon, est-ce que ça vous a donné envie de la découvrir un petit peu ? Emeline.
Alors, je connaissais pas du tout.
Ouais.
Franchement, c'est vachement cool comme style. Et surtout que j'ai entendu qu'il y avait un peu de house et tout ça, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est des styles qui te plaisent ? Ok, trop cool. Et toi, Lucille, est-ce que tu connaissais cet artiste ou sinon, est-ce que c'est ton style et t'aurais bien aimé te découvrir ?
Je connaissais de nom, mais en fait, j'ai jamais vraiment écouté. Donc après cette chronique, voilà, je vais allumer Spotify pour aller découvrir.
C'est trop chouette. Et toi, Marie, tu connaissais ou pas du tout ?
Comme Lucille, je connaissais simplement de nom, mais en tout cas, Anna, tu l'as très bien vendu et ça donne très envie d'aller écouter.
Et bien c'est fou parce que moi je le connaissais absolument pas. Donc j'irai écouter parce que ça m'intrigue du coup, puisque voilà, c'est pas forcément le style, la house, je connais pas trop ce style là non plus. Mais par curiosité, pour pas mourir bête, j'irai découvrir. Et bien merci beaucoup à vous toutes. Est-ce que vous vous souvenez de Mato Aka dont je vous parlais tout à l'heure ? Cette femme que vous connaissez forcément, enfin que vous pensez connaître. C'est le portrait de la semaine que tu nous présentes, Emeline, et j'ai déjà hâte de redécouvrir l'histoire de cette femme qui est bien loin du conte de fées Made in Disney.
Elle était une fois une femme dont l'histoire fut effacée à travers les contes et la cinématographie. Je vous parle de Pocahontas, de ses vrais noms, Matoaka, qui est son nom de clan, et Amonte, qui est employée par ses parents. C'est la fille du chef des tribus Powhatan dans l'actuelle Virginie. Une histoire de colonisation et de légende, il est temps de mettre en lumière son histoire. En 1607, les colons venant d'Angleterre arrivent en Amérique du Sud, dans une tribu Powhatan, et fondent la première colonie, Jamestown. L'un d'entre eux, John Smith, le capitaine, écrit en 1624 « Histoire de la Virginie ». Dedans, il est écrit ce qui soi-disant s'est passé lors de l'expédition en Virginie. Et vous allez voir, c'est assez différent. Pour se faire légende, il y raconte qu'il aurait été capturé et mis à mort par les hommes de la tribu et que Matoaka lui aurait sauvé la vie en suppliant sa libération. On y reconnaît là l'histoire de Disney, mais pas la réalité, malheureusement. Et il faut d'ailleurs savoir que ce n'est pas encore une femme à ce moment-là, car elle n'avait que 12 ans. En effet, Pocahontas n'a jamais sauvé le pauvre John Smith en danger de mort. Cependant, certains disent qu'elle ne l'a jamais connu, et d'autres qu'il s'agissait d'un rituel d'accueil et qu'elle s'entendait bien avec John Smith. Cela reste encore à vérifier. Bon. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été capturée et forcée de se tenir aux coutumes et croyances occidentales, par conséquent au christianisme, à l'apprentissage de l'anglais, mais aussi à la mode européenne. On y voit une vraie volonté d'effacer son identité, jusqu'à en changer son prénom pour faire plus anglais. Matoaka devient alors Rebecca. Puis, un bon jour, un anglais tombe amoureux d'elle, John Rolfe, et la demande en mariage. Comme ça avantage tout le monde, puisque les tensions entre la tribu et les colonies s'apaisent et que les colons ont plus de facilité à faire fonctionner leur commerce, la liaison est alors acceptée. Ici, c'est pareil, les infos divergent, mais la plupart disent que le mariage était consenti. Elle s'en va avec son cher et tendre mari, et là-bas, elle sera traitée comme un trophée venant du Nouveau Monde, une sorte de relique. Mais aussi vue comme une autre façon d'idéaliser l'Occident, en la montrant comme la princesse qui change sa culture pour l'Europe et qui est vue comme la seule façon d'exister. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de Matoaka qui, tristement, n'a pas pu retrouver sa terre natale, morte à seulement 20 ans dans le bateau en direction de la Virginie, d'une dysenterie accompagnée d'une pneumonie. Et je pense qu'il faut garder cette histoire dans un coin de notre tête, même si on aime la légende animée par Disney.
Merci beaucoup Emeline pour ce nouveau portrait. Je connaissais personnellement la véritable histoire de Pocahontas, ou plutôt Matoaka, et je suis toujours aussi outrée de voir comment l'occidentalisme a romantisé cette tragédie coloniale. Donc vraiment merci Emeline de rétablir la vérité. Nous allons à présent marquer une pause musicale qui nous est présentée par toi Anna.
Je vous ai parlé un peu plus tôt de Björk et de son style expérimental, mais ne croyez pas que j'allais vous laisser partir sans écouter un de ses sons. J'espère vous avoir attisé la curiosité. On s'écoute tout de suite le premier morceau que j'ai connu de son album Debuts. J'ai nommé Venus as a Boy. Si vous êtes intrigué par le reste de l'album, n'hésitez pas à le streamer et à faire des retours sur celui-ci sur notre compte Insta EEUF-Radio-G. Je serai ravie de les lire.
Merci beaucoup et bonne écoute. Vous êtes toujours avec nous sur le 100.5 FM dans Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Toujours avec mes copines. Et Emeline, ça va toujours ?
Ça va très bien.
Trop bien, toujours avec Anna. Anna, ça va toujours ?
Ça va toujours.
Trop cool, toujours avec Marie. Marie, ça va toujours ?
Toujours, toujours.
Et Beth, c'est trop bien. Elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. C'est Lucille qui représente aujourd'hui la Fémuse, l'association qui a pour projet de créer un musée des féminismes. Lucille, ça va toujours ?
Ça va toujours, merci.
Eh bien, c'est trop bien parce que c'est le moment confession. Parce qu'ici, on se dit tout. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Et en fait, on se connaît déjà toutes les deux, Lucille et moi, parce que on s'est rencontrées lors de mon immersion que j'ai réalisée à la Fémuse dans le cadre de mon volontariat. Et donc, je peux l'avouer maintenant, lorsqu'on a créé cette émission, j'ai tout de suite pensé à toi et au projet que tu portes avec la Fémuse. Parce que qui de mieux qu'un musée des féminismes pour parler féminisme ? Eh bien, c'est notre invitée de la semaine. Bonjour Lucille, alors j'ai fait que de le répéter depuis le début de l'émission, mais je vais le redire encore une fois. Tu représentes aujourd'hui l'association Afémuse qui œuvre à la création du premier musée des féminismes de France. Donc on va commencer par une petite contextualisation pour apprendre un peu à te connaître et à connaître l'association que tu représentes aujourd'hui. Donc tu es chargée de projet au sein de l'Afémuse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement en quoi consiste ce rôle ?
Oui, donc c'est un projet qui est porté par la Fémuse et aussi par l'Université d'Angers.
Okay.
C'est vraiment un projet conjoint. Et je coordonne un petit peu toutes les actions de préfiguration et de création du musée. En fait, il y a vraiment deux activités en parallèle. La création du musée avec l'idée d'avoir vraiment un bâtiment dédié au musée à Angers. Et puis toute l'activité de préfiguration. Donc en attendant que ce bâtiment avec ses murs physiques existe, on a quand même une activité soutenue de faire connaître le projet, d'organiser des expositions temporaires, itinérantes de préfiguration et voilà, montrer ce que ça sera et puis le faire connaître.
Trop cool. Comment t'es arrivée toi à rejoindre ce projet ?
Un peu par hasard, en fait, j'en avais déjà entendu parler à sa création, puisque le projet existe depuis la fin 2022, au moment où l'association a été créée. Et puis donc, le projet est porté par deux coprésidentes, Christine Barr, qui est à l'Université d'Angers, et Julie Verlaine, qui est à l'Université de Tours, mais qui était anciennement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où je faisais mes études. Donc, en fait, le projet était pas mal connu dans le milieu universitaire déjà, et j'en avais entendu parler à cette occasion, puis j'avais suivi le projet. Et donc, quand le poste de chargée de projet a été ouvert au début de l'année 2025, j'ai postulé, donc je suis arrivée ici, dans ce cadre.
Ok, trop cool. Donc en fait, tout en suivi, comme ça, les choses se sont déroulées naturellement finalement. Ok, mets-toi bien devant le micro quand tu me réponds, surtout. Et la Fémuse, du coup, elle est composée de combien de personnes, dis-moi ?
Alors actuellement, on a un conseil d'administration de 10 personnes.
Ok.
Et en fait, je suis la seule salariée, mais récemment rejointe par une étudiante en alternance, Léonie Robin, qui nous accompagne aussi. Et donc, on est voilà, une dizaine de personnes et on a ouvert l'association très très récemment. Donc c'est un peu la nouvelle du mois aux adhésions et aux bénévoles, puisqu'il est désormais possible d'adhérer à l'association si on veut rejoindre la communauté de soutien autour du projet. Et puis possible aussi, si on a du temps et de l'énergie, de candidater en tant que bénévole pour nous aider aussi sur ce projet. Donc une dizaine de personnes dans le CA, plus évidemment toutes les personnes qui sont à l'Université d'Angers, avec qui on travaille très en lien et qui sont évidemment essentielles pour ce projet. Et puis bientôt, de nombreux bénévoles qui vont nous aider aussi. Donc ça commence à faire un petit écosystème de personnes qui travaillent sur le projet. Et puis tous nos partenaires aussi, évidemment, qui nous aident et nous soutiennent beaucoup.
Trop chouette, donc ça fait un paquet de personnes, mais c'est trop bien, surtout si ça peut concrétiser ce projet qui est vraiment trop trop chouette. Donc nous sommes dans Elle était une fois, une émission qui vise à mettre les femmes dans la lumière qu'elles méritent, et c'est j'imagine aussi l'objectif de la Fémuse. Comment est né le projet de créer un musée des féminismes ?
Il est né à l'Université d'Angers, puisqu'il existe depuis maintenant une vingtaine d'années le Centre des Archives du Féminisme, qui est en fait le lieu avec la plus grande concentration d'archives féministes en France, avec d'autres institutions que vous connaissez peut-être, comme la Bibliothèque Marguerite Durand ou le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et donc il y avait la volonté de valoriser ces archives, puisqu'elles étaient beaucoup vues par les chercheurs et chercheuses, mais assez peu du grand public finalement. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi vraiment la volonté de constituer une collection qui dédiée à l'histoire des féminismes pour que cette histoire rentre en fait dans notre patrimoine ou dans notre matrimoine, comme on dit de plus en plus aussi, en tout cas dans notre héritage commun, et qu'on puisse aussi la transmettre à un large public par des expositions, par des actions culturelles, des actions de valorisation. Donc ça vient d'ici, et puis je rends quand même aussi tout l'honneur à Christine Barr, qui est en fait à l'initiative de ce projet, qui était aussi à l'initiative de Muséa, qui est un site d'exposition virtuelle sur l'histoire des femmes et du genre. Donc le projet vient aussi beaucoup d'elle et de toutes les actions qu'elle mène depuis de nombreuses années. Voilà.
Ok, super. Depuis le début, on dit le musée des féminismes, mais pourquoi des féminismes au pluriel? Est-ce que tu peux nous expliquer?
C'est très important puisqu'il existe en effet une pluralité et une diversité de mouvements féministes. On ne peut pas résumer le féministe à un seul mouvement. Et c'est vraiment ce qu'on veut montrer par le musée, voilà, montrer la diversité, que ce soit la diversité sociale, géographique, de point de vue, voilà, dans... montrer vraiment la pluralité des points de vue qu'il existe à travers l'histoire. Et puis, c'est vraiment aussi l'histoire des féminismes. Souvent, le projet est mal compris dans le sens où on pense que c'est un musée des femmes, mais non, c'est vraiment un musée des féminismes, un musée qui a vocation à montrer les luttes pour l'émancipation des femmes et de manière plus générale, en fait, contre toutes les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle, ce qui est en fait déjà un sujet très très large.
Oui, effectivement. Le musée est pour l'instant encore à l'état de projet, on ne peut pas encore le visiter, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on pourra y trouver dans ce musée?
Mais de tout, en fait, ça se veut être un musée qui sera assez hybride, puisque c'est un musée d'histoire, évidemment, okay. Mais c'est aussi un musée de société. Mm-hmm. Donc, il y aura des archives, des objets, des documents, des œuvres d'art aussi, puisque les beaux-arts auront une place importante. Et puis, plus largement, des documents, enfin, du patrimoine immatériel, du cinéma, du théâtre, de la danse. On veut que ce soit un lieu qui intègre en fait toutes les formes de culture, et le lien entre ces différentes formes de culture est très intéressant aussi à penser dans un musée. On aura des objets contemporains aussi. Par exemple, on a lancé en 2023-2024 une collecte qu'on a appelée la récolte féministe.
Ok.
Qui était une collecte d'objets ayant servi en manifestation.
Oh.
Et donc, on a collecté à cette occasion près de 200 objets, donc des affiches, des pancartes, des vêtements, des textiles, des badges. Des objets vraiment contemporains qui ont, pour une partie, qui ont été intégrés par exemple à la première exposition Les femmes sont dans la rue, qui a été présentée à Belleveille cette année. Donc voilà, des objets historiques, des objets contemporains, des objets d'art, des archives, une pluralité vraiment de supports pour transmettre cette histoire des féminismes.
C'est trop chouette, il y aura de quoi faire et de quoi voir, c'est trop trop intéressant. À titre personnel, qu'est-ce que ça te fait toi d'être à la tête d'un tel projet? Parce que c'est quelque chose de dingue quand même.
C'est vraiment une chance, c'est un projet qui est vraiment incroyable, qui est aussi inédit. C'est vrai que, aussi fou que ça puisse paraître, il n'existe pas encore en France de musée dédié à cette histoire. Donc une grande chance d'être dans ce projet et puis d'être entourée aussi de beaucoup de personnes qui croient en ce projet et qui font tout pour qu'il voit le jour. Donc vraiment une grande chance d'être ici.
Et malgré tout, ça doit être énormément de travail au quotidien, d'autant plus que même s'il y a plusieurs personnes dans l'association, si je dis pas de bêtises, c'est la seule salariée. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que ça va, c'est pas une trop grosse charge, ou tu t'en sors, ou c'est un peu fatigant quand même malgré tout?
Je ne suis pas en burn-out, tout va bien. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est aussi des belles choses, et on est vraiment, enfin, il y a beaucoup d'enthousiasme en fait. Donc,
ouais.
Donc c'est des choses qu'on fait avec le cœur, et donc finalement, on ne compte pas le travail quand on fait les choses avec le cœur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, on a vraiment cet objectif en fait de création d'un musée qu'on voit arriver, qui se rapproche de plus en plus. Et ça, c'est sûr que ça motive. Et on est deux salariés maintenant.
Ah, trop bien.
Puisqu'on a Léonie Robin qui est en alternance avec nous.
Effectivement.
Et peut-être bientôt plus, on espère pouvoir recruter, puisque c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire en fait. Donc on devrait être beaucoup plus, c'est évident, mais ça se fait petit à petit.
Eh bien, on croise les doigts pour que ça continue à grandir, et on vous souhaite que le meilleur. Anna, Emeline et Marie autour du plateau, si vous avez des questions pour notre invité, n'hésitez pas, je reviendrai vers vous tout à l'heure. L'année dernière, donc, il y avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, une magnifique exposition à la BU de Belleveille. Est-ce qu'elle est encore visitable actuellement, ou ça y est, c'est terminé?
C'est terminé, malheureusement. C'était en effet une très belle exposition réalisée sous le commissariat scientifique de Ludivine Bantini, qui retraçait les mobilisations des femmes dans la rue de la Révolution française à nos jours, avec près de 300 œuvres et documents, donc une exposition vraiment très riche, très dense, et qui a beaucoup plu. On a eu des retours en fait extrêmement positifs des personnes qui sont venues la visiter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est, on est en train de l'adapter en exposition itinérante. Peut-être que c'était ta prochaine
question.
C'était
ma prochaine question, effectivement.
Et pour qu'elle puisse être continuer d'être vue, et en fait on a eu beaucoup de demandes aussi de structures partout en France qui voudraient accueillir cette exposition, donc ça va permettre de toucher un public plus large aussi qui n'a pas forcément eu l'occasion de venir à Angers, donc elle a été adaptée en format sur panneau, donc c'est
okay.
Voilà, c'est une adaptation de l'exposition qui a été faite à Belle-Beille, mais ce sera une très belle exposition sur panneau avec de beaux panneaux encadrés d'un cadre en bois, et puis voilà, de très beaux panneaux. Je ne vais pas spoiler ce que ça va être, mais on espère qu'elle va pouvoir vraiment circuler à travers tout le territoire, dans des lieux divers, pour toucher vraiment un large public, et puis peut-être même au-delà des frontières, hein, qui sait, pourquoi pas.
Oh, ce serait incroyable. Est-ce qu'on a une petite idée d'à partir de quand elle pourra partir, cette expo itinérante, ou pour l'instant
elle sera prête à la fin d'année, et elle va itinérer à partir de début 2026.
Oh, ok, donc ça approche à grands pas.
Ça approche.
Ok. Anna, Emeline et Marie, est-ce que vous avez une question pour notre invitée, ou pas spécialement? C'est ok de dire non. T'as une question, Anna?
Du coup, de ce que j'ai compris, vous siégez surtout à Angers, mais est-ce que ça s'étend en France, sur toute la France, ou
Le musée, il sera vraiment implanté à Angers, parce qu'on a du lien en fait essentiel avec l'université d'Angers, puisque tout part d'ici. Donc c'est un musée qui sera implanté localement, mais qui est quand même un projet d'envergure nationale. Donc par les expositions itinérantes et aussi par les partenariats qu'on noue avec les institutions partout en France et à l'international aussi. En fait, c'est un projet qui aura un rayonnement beaucoup plus large que local.
Ok, merci.
Trop intéressant. Une autre question ou non? C'est ok de pas en avoir. De nouveau, donc nous sommes dans Elle était une fois, l'émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta relation avec le féminisme. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours intéressé, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure en prenant par exemple conscience des discriminations que subissent les femmes ou autre chose? Comment c'est venu un petit peu?
C'est toujours difficile de répondre à la question, je trouve, comment ça se fait qu'on est féministe?
C'est clair.
D'où est-ce que ça vient? Quand est-ce que c'est apparu? En fait, je pense que c'est une accumulation de choses. Je pense que le mouvement MeToo, pour ma part, a beaucoup joué, puisque voilà, j'avais 18 ans au moment du mouvement MeToo.
Ok.
Et puis après, c'est des lectures, c'est des rencontres. Mmh. C'est aussi ouais, une prise de conscience généralisée. Et puis je pense que quand on se rend compte des inégalités de genre, on finit par ne voir plus que ça finalement, et donc c'est un prisme aussi que j'ai réussi à acquérir au fil du temps, des lectures, des rencontres et des prises de conscience.
Ok. Et si je ne dis pas de bêtises, mais corrige-moi si c'est le cas, tu es issu du milieu universitaire, qui est, je crois, encore un milieu très dominé par les hommes. Est-ce que tu as déjà ressenti une différence de traitement parce que tu es une femme, ou pas du tout?
Bah, forcément, je pense que, bon, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que toutes les femmes ont déjà subi à un moment ou un autre de leur vie voilà, les inégalités,
ouais.
Ou en tout cas le système de domination dans lequel on est. Après, je me sens quand même relativement chanceuse.
Okay.
C'est vrai que voilà, je reviens d'un milieu quand même plutôt privilégié. Mm-hmm. J'ai réussi à faire de grandes études, à trouver le chemin qui me correspondait. Donc je me sens quand même privilégiée, mais enfin de manière plus générale, voilà, c'est une prise de conscience du système dans lequel on vit, et la volonté de changer les choses aussi à notre échelle.
Et c'est très très beau et très important surtout. Et parce que du coup le féminisme s'est construit avec des figures de femmes qui se sont battues pour leurs droits, est-ce qu'il y a une femme dans tous ces mouvements féministes qui t'a particulièrement marquée?
C'est difficile.
Je sais, je pose des questions
d'en choisir une.
Tu peux en choisir plusieurs.
Joker, non, je saurais pas en choisir une.
Ah vraiment, même pas un nom qui vient
Le premier qui me vient, c'est Madeleine Pelletier, et Christine me rejoindrait là-dessus parce qu'elle a beaucoup travaillé sur Madeleine Pelletier, mais c'est une femme qui a été très très précurseuse, voilà, qui a parlé des du corps, de questions de d'avortement, de manière très précurseuse en fait,
ouais.
Et elle, qui était complètement complètement subversive, et c'est une figure que j'ai beaucoup admirée. Mais...
Elle était à quelle époque, si tu sais?
C'est le 19e siècle.
Ok, ah ouais, donc en avance sur son temps. Bah, c'est super d'avoir des noms comme ça qui marquent, parce que c'est super important d'avoir de la représentation. Est-ce que autour du plateau, une dernière fois, il y a une petite question qui se balade? Non, pas particulièrement. Ok, trop chouette. Eh bien, merci beaucoup, Lucille, pour cet échange. C'est un vrai, vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. Nous ne manquerons pas, évidemment, de suivre toutes les actualités de la Fémuse sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous donne le compte Insta où vous retrouverez toutes les infos. C'est Musée des Féminismes, tout attaché, sans accent. Voilà, Musée des Féminismes. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et surtout merci à toi et à toute l'équipe de la Fémuse de travailler à la création d'un tel projet, parce que le travail de mémoire est super important et qu'il est essentiel de connaître notre histoire. Alors une fois de plus, merci beaucoup. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale, puis nous reviendrons dans quelques instants avec une histoire de reine, de dragon et de société matriarcale. Puis nous discuterons ensemble d'un sujet qui me semble très très important, comment se sentir légitime dans son engagement. On en parle dans quelques minutes, alors restez avec nous. Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter Sorcière de Faustine. C'est une artiste que j'ai découvert très très récemment et je l'écoute en boucle depuis. Donc je vous laisse écouter et on se retrouve dans un instant sur Radio G 100.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute!
J'ai ferré sur nos corps. On n'a pas demandé si vous étiez d'accord. Nos corps, nos choix, c'est nos droits. Alors ferme-la, c'est nos vies, nous décidons. Soyez prêts pour la révolution.
Une fois sur Radio G 100.5 FM ou sur radio-g.fr, et je suis toujours avec mes copines Anna, Emeline, Marie et notre invitée du jour Lucille, qui représente l'association La Fémuse, qui a pour projet de créer le premier musée des féminismes de France. Ça va, Lucille, tu passes un bon moment avec nous?
Très bien, merci Astrid.
Eh ben, c'est trop trop bien. Nous partons à présent pour un monde où les femmes règnent fièrement entre magie, intrigues politiques et dragons. Vous ne serez pas déçus du voyage. Bonjour Léonie.
Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement dans votre petit fauteuil et laissez-moi vous conter une histoire un peu particulière. Ici, on se retrouve dans un conflit entre deux pans du monde, l'Ouest et l'Est. À l'Ouest, pas de royaume dirigé par un roi, mais un rénome dirigé par une reine portant le nom de Sabran IX. Cette reine, elle est l'héritière de la dynastie des Beretnet, qui garantissent la protection contre les dragons depuis la chute du terrible sans nom maintenu emprisonné depuis 1000 ans. À côté de la reine Sabran, on retrouve Ed, qui semble n'être que la dame de compagnie de la reine, mais qui est en réalité une magicienne appartenant au groupe secret du prieuré de l'Oranger et qui a pour mission de veiller sur la souveraine. À l'Ouest, les dragons ne sont pas craints, mais vénérés. Et Tané rêve de devenir une cavalière de dragons. La jeune guerrière va faire tout son possible pour réaliser son objectif, mais quand elle va briser la règle la plus importante de son pays, ne pas laisser entrer un étranger, tout son monde va être mis sans dessus dessous. Et quand le sans-nom menace de revenir après 1000 ans de sommeil, il faut essayer d'aller au-delà de la haine pour s'unir contre cette menace destructrice. Vous avez peut-être reconnu le livre dont je vais vous parler, puisqu'il s'agit du roman de fantasy Le Prieuré de l'Oranger, écrit par l'autrice britannique Samantha Shannon, S-H-A-2-N-O-N, en 2019, et publié en France la même année chez De Saxus. Souvent, quand on se retrouve face au roman en librairie ou en bibliothèque, on le remarque très vite grâce à sa taille. Parce que il faut avouer qu'un peu moins de 1000 pages, c'est difficile à cacher. C'est ce qu'on a tendance à appeler un bon pavé. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il en vaut le détour. Inspiré de la légende médiévale de Saint-Georges et le dragon, dans laquelle un saint apprivoise et tue un dragon en sauvant la demoiselle en détresse qu'il s'apprêtait à manger, Samantha Shannon en propose une réécriture féministe. Alors que le genre de la fantasy, et plus particulièrement de la fantasy médiévale, est dominé par les hommes, ici on est dans un univers totalement matriarcal, rempli de femmes inspirantes, non blanches et queer. Je dois vous avouer qu'il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai acheté le livre et le moment où je l'ai lu. Parce qu'il en faut du courage pour enfin sauter le pas et entamer un roman qui est aussi gros. Mais je me suis pris une vraie claque. Ce que l'autrice nous propose, c'est tout simplement une masterclass en termes de création d'un monde. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est de me rappeler pourquoi j'aime autant lire de la fantasy. On se plonge corps et âme dans un monde nouveau qui ne demande qu'à être exploré. Et quand il est aussi riche que celui-là, on s'y perd volontiers pendant des heures et des heures. Alors si vous vous sentez prête à entrer dans un monde magique et dangereux, vous pouvez découvrir Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Et quant à moi, je retourne me plonger dans ma bibliothèque pour vous trouver de nouvelles pépites féministes. Bonne lecture!
Merci beaucoup Léonie pour cette nouvelle découverte. C'était pas un livre qui m'atterrit à l'origine, je l'avoue, mais t'entendre en parler a suscité ma curiosité. Donc je me laisserai peut-être tenter un jour pour découvrir Le Prieuré de l'Oranger. L'heure est venue à présent de discuter d'un sujet qui est très important pour moi, à mon sens, et que de nombreuses personnes engagées et militantes ressentent au moins une fois. Je veux parler de pureté militante et de légitimité. Avant de discuter, il faut peut-être que j'explique ce qu'est la pureté militante, et pour cela, je me suis tournée vers mon ami de toujours, Wikipédia. La pureté militante est donc, je cite, « une injonction à avoir un comportement parfait dans certains cercles militants. Elle est souvent associée au militantisme performatif et est souvent impossible à atteindre. » En d'autres termes, il s'agit d'une pression que l'on se met à soi-même ou qui nous est imposée par les autres à être parfait sur tous les niveaux liés à nos convictions. Par exemple, on peut avoir la sensation qu'il faut boycotter toutes les marques problématiques, qu'il faut être irréprochable dans sa consommation pour préserver l'environnement, qu'il faut faire attention à absolument tout ce qu'on dit, qu'on doit être sur tous les fronts, aller dans toutes les manifs, parce que sans ça, on n'est pas vraiment militante. Alors je voudrais déjà, dans un premier temps, faire un petit tour de table pour savoir si vous avez déjà ressenti cette pression. Anna.
Bah, j'avoue que je reprends l'exemple du faut boycotter certaines marques et tout. Je suis vraiment à fond dedans personnellement parce que je trouve que c'est hyper important de, par exemple, pas soutenir les marques qui exploitent les Ouïghours, par exemple.
Ouais.
Je citerai pas de nom évidemment.
Évidemment.
Mais oui, en tout cas, du coup, c'est quand même assez chaud de faire attention à bien voir quelles marques soutiennent, enfin, exploitent ou non. Et sachant qu'aujourd'hui, en 2025, il y en a quand même pas mal. Parfois, ça arrive de faire des erreurs, évidemment, de ne pas savoir. Mais ouais, et puis c'est toujours un terrain de conflit, je trouve, parce que tu parles avec tes potes, tu dis « Ah, mais t'achètes chez machin, mais tu sais qu'ils exploitent les Ouïghours. » Et donc, certains vont dire que c'est pas grave. C'est en fait... Le militantisme, bon, c'est sûr que ça paraît un peu évident comme ça, mais c'est quand même une énorme source de conflit, je trouve. Et pour tous les points, en tout cas.
C'est vrai que c'est pas toujours évident. Lucille, est-ce que tu as déjà ressenti cette pression, ce devoir d'être absolument parfaite sur tous les points ?
Oui, c'est sûr. Après, effectivement, on essaie toujours de rester le plus cohérent avec nous-mêmes et de faire ce qu'on peut, mais on peut jamais tout faire, finalement. Donc, il faut aussi avoir un peu d'indulgence avec soi-même et surtout les femmes, en fait, je pense qu'on est souvent pas assez indulgente avec nous-mêmes. Puis il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de nous, en fait, oui. Finalement. Donc oui, je comprends parfaitement ce concept de pureté militante, mais un peu d'indulgence quand même.
Ok. Et toi, Marie, est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà ressenti ?
Oui, bien sûr. Et puis, je rejoins ce que disait Anna. C'est vrai qu'on sent que ça peut être un sujet où des fois, voilà, on est fatigué. On lance un sujet, où il y a un sujet qui se lance, on se dit, bon, allez, je réagis pas.
Ouais.
Voilà, je trouve que faut toujours... je pense qu'il y a des fois où il y a des endroits où, malheureusement, tous les combats sont pas forcément... ouvert, ou en tout cas on peut pas forcément aller au front tout le temps, et je pense qu'en effet il faut être indulgente avec soi-même, de se dire que si on a l'énergie de le faire, c'est trop bien, et c'est génial, et il faut l'encourager. Et si un jour on n'a pas l'énergie de le faire, ou si on n'a pas envie d'aller à cette 12e manif, c'est pas grave. Je pense que le militantisme, déjà, c'est un mot dont il faut pas avoir peur. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup revendiquer aussi. Et en fait, je pense que le militantisme, ça part de ce qu'on fait au quotidien, tous les jours. Je pense qu'il vaut mieux faire des petits pas dans son quotidien plutôt que d'aller une fois par an dans une manif, quoi.
C'est très intéressant ce que tu dis, et je suis complètement d'accord. Et toi, Emeline, est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà ressenti, de devoir être parfaite dans ton militantisme ?
Un petit peu, et franchement, je me dis, je fais ce que je peux à mon niveau, surtout, parce que je pense pas tout le monde a la possibilité de militer d'une manière ou d'une autre. Et franchement, oui, il faut toujours être conscient, en tout cas, des combats et qu'on veut mener. Et je pense que c'est le plus important.
Faire de son mieux, et c'est le plus important, je suis complètement d'accord. Personnellement, c'est quelque chose qu'il m'arrive souvent de ressentir également, et je vais être totalement honnête avec vous, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais il y a un mois encore, je me demandais si j'étais la bonne personne pour porter cette émission, parce que j'ai beau avoir travaillé pendant des mois sur ce projet, je me sentais pas forcément légitime pour plein de raisons. Et en fait, il m'arrivait parfois de me demander si j'étais la bonne personne pour cette émission et si j'étais vraiment légitime à prendre la parole. Bon, alors, je vous rassure, je me sens mieux dans mon rôle maintenant, notamment grâce à mon entourage qui m'a aidé à voir que j'étais légitime et que ce que j'avais à dire est tout aussi intéressant et mérite d'être entendu. Donc, je dirais que c'est un petit peu mon conseil. Être bien entouré, ça aide à faire face à ce genre de doutes. Mais est-ce que autour de la table, vous en avez d'autres ? Qu'est-ce qui vous aide, vous, à vous sentir légitime dans ce que vous faites ? Lucille ?
Pas facile comme question.
Non, mais je te rejoins beaucoup sur l'entourage, en effet. Je pense qu'on on se rend compte aussi, comme tu dis, de l'importance qu'on peut avoir par les retours qu'on nous fait, par notre entourage qui nous encourage aussi et qui nous fait des retours positifs. Je te rejoins sur ça.
Ok. Et toi, Emeline, est-ce que tu as des petits tips pour se sentir légitime ?
Franchement, il faut se dire déjà que même si on est, entre guillemets, qu'une personne... on est quand même important, et on peut changer la manière de voir les choses, même pour une personne, et c'est déjà vraiment un faire-ton, déjà, c'est quelque chose.
Donc si on peut aider à changer la vie d'une seule personne, on aura déjà gagné, c'est ça que tu veux dire ?
Je trouve ça déjà important, parce que cette personne-là, elle peut aussi influencer d'autres personnes, qui peuvent renseigner d'autres personnes, et à la chaîne, comme ça.
Et on influence le monde entier, et c'est ça qu'on veut. Marie, est-ce que tu as des petites astuces, ou des petits conseils ?
Je pense que c'est aussi quelque chose qui se forge en grandissant, en vieillissant. Ouais. Ça fait un peu mal de le dire. mais je pense qu'on s'entoure aussi en grandissant de personnes qui nous ressemblent et avec qui on partage des valeurs. Et donc, ça nous encourage aussi dans les combats qu'on peut mener par moment. Et puis, je pense aussi le fait de pouvoir prendre du recul sur l'impact qu'ont nos actions, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ouais. De se dire que, un peu comme ce que disait Emeline, que finalement, des fois, une petite chose va avoir un impact sur une personne, mais l'effet papillon, il est vite arrivé et on peut pas forcément mesurer l'impact final d'une petite chose qu'on aura faite. Donc, je pense que, enfin, en tout cas, nous, chez FAS, c'est ce qu'on essaye de faire. À chaque fois, on dit qu'on est des semeuses de graines. Mmh. Donc, c'est vraiment cette idée-là. On sème la graine, on a hyper confiance dans la graine, on sait que c'est de la super graine. On sait pas vraiment ce qui va pousser après et chacun s'en saisira un peu comme il le veut. Mais, voilà, l'idée, c'est d'y croire et de se dire que le militantisme peut être contagieux, j'ose l'espérer.
Ah, j'espère aussi. Et j'utilise moi-même la métaphore de la graine au quotidien, donc je trouve ça trop trop drôle. On est un petit peu des jardinières dans l'âme finalement.
Clairement.
Et toi, Anna, est-ce que tu as des choses à dire sur ce sujet ?
Je te rejoins sur le fait que plus on grandit, plus on s'entoure de personnes qui nous ressemblent, je trouve. Sachant que en tant que femme, je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir un entourage féminin. Mmh. Et de s'engager, là par exemple, je prends l'exemple de la radio, c'est vraiment génial de pouvoir militer de cette manière, de pouvoir donner notre voix, la faire porter et que les gens puissent nous écouter, puissent être influencés. Et c'est vrai que bah, c'est un peu notre petite graine à nous, si on veut. Et franchement, je trouve que chaque personne est légitime de militer pour sa cause. Parce que en soi, on peut tous être un peu une minorité. Enfin, ça dépend. Je vais pas prendre l'exemple d'un homme blanc, cisgenre hétéro, de ce que vous voulez. Mais nous, en tant que tels, je trouve que vraiment, c'est bien qu'on donne de notre voix, qu'on fasse quelque chose pour changer le monde. Ouais. C'est déjà pas mal.
On plante notre petite graine à notre tour.
Exactement.
J'adore cette analogie, je la garderai. Je voudrais finir en disant que vous êtes la seule personne à pouvoir juger de votre engagement. Personne, à part vous, ne peut vous dire si ce que vous faites est assez ou pas. Personne n'a à juger votre militantisme parce qu'en vous éduquant sur des sujets tels que le féminisme, le racisme et bien d'autres choses, vous faites déjà plus qu'une majorité parce que la moindre action que vous faites, qu'elle soit grande ou petite, c'est déjà plus que ce que beaucoup de monde ne fait. Alors il ne faut pas dévaloriser les actions en se disant que d'autres font mieux. Il faut se féliciter de faire parce que chaque brique construira le mur du changement, peu importe que vous ayez placé une brique ou des milliers. Et l'objectif, à mon sens, c'est pas d'être parfait, mais de faire de son mieux selon ses capacités et ses convictions. Et je voudrais savoir si autour du plateau vous êtes d'accord avec ça ou si au contraire vous trouvez que finalement faut peut-être mieux un peu se mettre la pression, un petit coup de pression de temps en temps pour être sûr de toujours donner le meilleur de soi-même. Emeline.
Alors, je pense, enfin, en tout cas, se donner la pression, ça peut être négatif, même pour soi, pour sa propre santé mentale. Je pense, à force de donner la pression, on sera plus mal, notre militantisme, autre chose. Après, c'est quand même important de se dire, enfin, faut quand même s'éduquer un minimum sur les sujets, etc.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un peu un entre-deux.
Un entre-deux. Un peu, faut peut-être se challenger un petit peu en se disant, voilà, je vais m'éduquer sur ça aujourd'hui.
Pas et se mettre la pression, mais faut quand même faire un petit effort.
Ok, trop bien. Lucille, qu'est-ce que tu en penses ?
Enfin, pour moi, le mot-clé là, dans ce que tu dis, c'est vraiment le collectif. En fait,
ouais.
Je pense que voilà, on parle beaucoup d'engagement individuel, mais en fait, c'est aussi la somme de tous ces engagements qui fait le changement. Et on voit aussi beaucoup dans l'histoire des féminismes. En fait, c'est vraiment voilà, on se concentre souvent beaucoup sur des grandes figures, mais en fait, c'est souvent le collectif qui fait avancer les choses. Voilà, on voit aujourd'hui les marées violettes qui déferlent depuis MeToo. On voit voilà les grandes manifestations féministes de l'an 2000 par exemple. Voilà les grands mouvements de suffragettes au Royaume-Uni, aux États-Unis, elles étaient vraiment des centaines de milliers. Et en fait, c'est la somme de toutes ces actions individuelles qui ont fait bouger les choses. Donc chacun apporte sa petite brique et au final voilà c'est de grands murs. Enfin, je sais pas si le but c'est d'ériger des murs, pas du tout.
Ma métaphore était peut-être pas très bien finalement. Les petites graines, c'est peut-être
les petites graines, voilà, pour avoir une marée de petites graines.
Pour avoir toute une forêt. Ok. Merci beaucoup à vous pour cet échange. C'était trop trop chouette de pouvoir discuter avec vous. Et j'espère que vous avez pu, que nous avons pu, pardon, aider certaines personnes à relativiser et à se sentir plus légitimes. Et comme d'habitude, auditeurs, auditrices, si vous aussi vous avez des témoignages à nous partager ou des conseils aussi pour se sentir légitime dans son militantisme, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre Instagram EEUF-RadioG. Merci à l'équipe d'aujourd'hui, merci Anna, merci Emeline, merci Léonie, merci Mayalène qui est pas là, merci Marie, merci Lucille évidemment. Et bien sûr, merci à vous aussi, auditeurice, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux sujets. Et si je peux vous teaser, nous recevrons une créatrice de bijoux angevine qui fait des créations absolument magnifiques. C'était Elle était une fois, votre émission féministe du 101.5 FM. Et je suis toujours aussi contente de pouvoir discuter avec vous pendant 1 heure. C'était trop trop chouette. On vous a parlé durant cette heure de nouveaux strings imitation poil pubien de Kim Kardashian. Anna nous a parlé de l'artiste Björk. Emeline nous a présenté Matoaka, la vraie Pocahontas qui a vu sa vie brisée à cause du colonialisme. Puis Léonie nous a présenté le prieuré de l'Oranger et nous avons débattu sur la pureté militante. Nous avons eu le plaisir également de discuter avec Lucille, représentante de l'AFEMUSE, l'association qui a pour projet de créer le premier musée des féminismes de France. Merci encore d'être venue, Lucille. Ça va, t'as passé un bon moment?
Oui, merci beaucoup. J'espère que voilà, j'aurais pu donner envie à certains et certaines qui nous ont écoutés de découvrir le projet. En tout cas, je vous invite à le suivre sur les réseaux, sur notre site, sur notre newsletter. Et puis, il y a plein de belles choses qui arrivent.
Et si jamais vous avez envie de vous engager, il y a un appel à bénévoles, donc n'hésitez pas. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et j'ai trop trop hâte de découvrir les futurs projets de la FEMUSE. On vous souhaite une très très belle journée sur Radio G. Retrouvez Entre les pages ce soir à 17h. Et si vous souhaitez découvrir de nouvelles voix féminines, rendez-vous demain à 20h pour Elle chante la francophonie. Quant à nous, on revient dans 2 semaines à 13h. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram EEUF-Radio G. Et pour bien finir cette émission, on termine avec une dernière musique, présentée cette fois par Emeline.
Alors pour cette dernière musique, j'ai choisi « Si j'étais un homme » de Sheila. C'est une chanson qui a été popularisée par TikTok. Alors à l'époque, c'était Musical.ly.
Ok.
Ça date un petit peu.
Ah, waouh.
Et j'aime bien cette musique parce qu'elle dénonce. Et franchement, c'est assez original parce que du coup, Sheila, dans ses paroles, elle prend vraiment la place des hommes. Elle parle de... Elle dénonce en fait justement le sexisme, tout
okay.
simplement. Donc voilà, je vous laisse écouter et à bientôt sur Radio G.
Bisous.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir.